Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y les.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les t-shirts là, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette.
Oui,
c'est intéressant.
Allez-y
quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool.
Sortez
les jambes.
Ok, vous voulez sortir.
Au chien bleu, c'est le bateau.
Vous voulez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sorti tous avec nous.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis accompagnée comme toujours par Samuel. Salut.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui donc une émission un peu particulière, puisqu'elle traite d'un sujet sensible. Nous recevons Perrine Hernandez, donc enseignante et membre du collectif Pas d'enfants à la rue, qui œuvre pour trouver des solutions d'urgence pour les familles avec enfants sans abri. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Et j'ai pas dit, on est aussi avec Sébastien, pardon.
Salut, salut.
Donc le collectif Pas d'enfants à la rue, il est récent sur Tours et il est porté par des enseignants. Comment est-ce qu'il s'est formé ?
Alors le collectif, il s'est formé en mars 2023 dans le quartier du Sanitas. Ceux qui sont à l'origine, ce sont des enseignants des écoles du Sanitas, donc l'école Michelet et puis les écoles autour, qui ont constaté qu'il y avait de plus en plus de leurs élèves qui n'avaient pas de solution le soir quand ils quittaient l'école, qui se retrouvaient à la rue et qui trouvaient ça absolument intolérable. Et donc les écoles concernées se sont réunies et c'est comme ça qu'est né le collectif. À la fin de cette réunion, ils ont décidé de créer ce collectif en espérant que ce soit que pour quelques mois. Et malheureusement, ça fait plus de 18 mois et le collectif existe toujours, alors que notre rêve absolu, c'est de pouvoir l'annuler, le dissoudre.
Et du coup, quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place pour aider les enfants sans abri ou à risque de l'être ?
Alors, on est en lien avec la municipalité, on est en lien avec d'autres associations. Et quand des familles de nos écoles nous alertent en nous disant qu'elles n'ont pas de solution, on essaie d'abord de trouver des solutions avec la mairie et les gens qui pourraient nous aider. Et quand vraiment on n'a pas d'autre choix, on paye des nuits d'hôtel à l'aide d'une cagnotte qui a été mise en ligne il y a quelques mois. Et puis parfois, quand on a trop de familles en même temps qui se retrouvent à la rue, on monte un peu en urgence des actions pour qu'on parle de nous et puis pour mettre les gens à l'abri dans des lieux dans lesquels on entre pour mettre les familles à l'abri.
Peut-être pour resituer un peu le contexte socio-économique aussi qui vous concerne. Comment des enfants se retrouvent à la rue ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui arrive à ces familles pour que les auditrices et auditeurs peut-être comprennent la situation du quartier dans lequel il y a votre école ?
C'est vrai. Alors, ce sont en majorité des familles qui viennent d'arriver en France et qui sont en cours de demande d'asile ou de demande de titre de séjour. Mais pour qui donc doivent appeler le 115 parce qu'elles n'ont pas d'hébergement fixe. Donc elles doivent appeler un numéro d'urgence qui est le 115, qui est censé donner une place d'hébergement d'urgence à toutes les personnes qui sont dans le besoin et qui malheureusement n'arrivent pas à donner ces places d'urgence parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires. Et quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Donc les gens se retrouvent à la rue. C'est le cas de familles avec des enfants parfois en très bas âge. On a dû aider des familles avec des bébés de moins d'un an. C'est le cas d'enfants qui sont en maternelle. C'est le cas de plus grands aussi. Voilà. En général, quand les enfants ont plus de 10 ans, ils sont un peu moins prioritaires au 115, donc plus facilement à la rue avec leurs parents. Ce qui est quelque chose qui nous révolte et qu'on ne peut pas accepter. Donc on essaie de trouver des solutions et d'appuyer sur tous les voyants rouges qu'on peut pour que l'État prenne en charge ces familles, puisque c'est le rôle de l'État normalement.
Et quel rôle l'éducation joue-t-elle dans vos interventions et comment les enseignants ils peuvent avoir un impact au-delà des murs de la classe ?
Alors on a toujours été soutenus par notre inspection et par le DAZEN, donc qui est au-dessus de l'inspection. On avait rencontré le DAZEN il y a quelques mois qui avait dit qu'il comprenait tout à fait que nos actions étaient tout à fait légitimes. Voilà. On sait qu'il parle, qu'il alerte la préfecture régulièrement, lui de son côté. Après, l'éducation nationale est un peu coincée puisque ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. Donc il y a eu des occupations d'école, en particulier à l'école Michelet. Dans ce cas-là, l'école a alerté la mairie et l'inspection pour dire, voilà, on a des familles, on a tant de familles avec tant d'enfants et de notre école et on ne sait pas comment faire. Donc ce soir, ils dormiront à l'école parce qu'on n'a pas d'autre solution. Jusque-là, il n'y a eu que l'école Michelet qui a été occupée. Mais après, on n'est pas à l'abri que d'autres écoles se retrouvent occupées aussi si on n'a vraiment pas de solution certains soirs. Voilà.
Est-ce qu'il y a déjà eu des cas d'harcèlement sur des enfants, notamment sur ces sujets-là ?
Pardon, j'ai
pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas d'harcèlement, notamment sur ces sujets-là, des enfants ?
Alors non, il n'y a eu aucun souci, à ma connaissance en tout cas, dans les écoles. Alors les enfants, par exemple les enfants de l'école Michelet savent qu'il y a certains copains qui sont à la rue, qui n'ont pas de solution le soir. Ça n'a pas posé plus de problèmes que ça, c'est des enfants comme les autres, c'est leurs copains. Et eux, du haut de leurs 6-10 ans, c'est tout ce qui compte. Et tant mieux.
Et donc, quels sont pour vous les plus grands succès ou avancées obtenues grâce à l'implication des étudiants dans cette cause ? Des enseignants, pardon.
Alors, on a malheureusement pas eu de grosses victoires jusque-là. On a eu plusieurs petites victoires qui sont déjà pas mal, mais pas suffisantes. Au mois d'avril l'année dernière, pour le premier anniversaire du collectif, on avait organisé un apéritif solidaire un mardi soir parce qu'on se doutait qu'il y aurait beaucoup de familles à la rue ce soir-là. Et on avait prévu un plan B au cas où on aurait trop de familles. Et du coup, le soir, avec les familles, on est allé occuper le dojo du Palais des Sports, par surprise. On était très peu nombreux à savoir ce qui était prévu. On a pu rentrer très facilement. On était étonnés même que ce soit aussi simple. Alors, c'était un petit peu avant les Jeux Olympiques. Donc, il y avait des journées portes ouvertes. Donc, les gens pouvaient aller et venir au Palais des Sports sans problème. Donc, c'est ce qui nous a simplifié la tâche. Et on a passé deux ou trois nuits au dojo, trois nuits en tout au dojo. Et à la fin de cette occupation du dojo, la mairie de Tours a ouvert un gymnase, donc du mois d'avril jusqu'au mois d'août, le gymnase Racco, ce qui n'est pas dans les attributions de la mairie. Donc ils nous ont aidés, ils ont payé à titre exceptionnel. C'est malheureusement de l'exceptionnel qui s'est renouvelé cette année, il y a quelques semaines. Et voilà, donc ça nous a permis de mettre des familles de façon relativement pérenne à l'abri pendant plusieurs mois, ce qui nous soulageait, ce qui elles aussi les soulageait bien sûr, parce que c'était des enfants qui étaient en sécurité avec une association Entraide et Solidarité qui gérait le gymnase, donc qui s'occupait des repas, de la surveillance, des activités avec les familles. Et voilà, ça a duré jusqu'à début août. Et puis, on a dû retourner au dojo cette année, un petit peu avant les vacances de la Toussaint, la semaine juste avant, le mercredi et le jeudi. Pareil, on avait plein de familles sans solution et pas assez d'argent pour payer l'hôtel pour tout le monde. Et donc, on est retourné au dojo du Palais des Sports. On a dormi deux nuits là-bas. Et pareil, la mairie, une fois de plus, nous a aidés en payant un gymnase pendant les vacances de la Toussaint, ce qui n'est toujours pas le rôle de la mairie. On les remercie parce qu'ils nous ont vraiment aidés. Mais ce n'est pas le rôle de la mairie. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'État et donc la préfecture jouent son rôle et se décident à ouvrir les places qui manquent, dont on a vraiment besoin pour ces enfants et leurs familles.
On en reviendra sur le rôle de la mairie et d'Entraide et Solidarité. Donc ça dépend beaucoup aussi des villes, du quartier d'enseignement et de la population. Mais comment sensibiliser davantage d'enseignants à ces problématiques et quels conseils est-ce que vous donneriez à ceux qui souhaitent s'engager auprès du collectif ou d'autres actions similaires ?
Alors, quel conseil donner aux enseignants ? Alors, c'est pas toujours simple de voir qu'une famille est à la rue, parce que les parents ne le disent pas, n'en sont pas très fiers, ont honte, ont peur, donc ne viennent pas forcément voir l'enseignant de leur enfant pour le dire. En général, les premiers signes, c'est des enfants qui sont extrêmement fatigués, parce que c'est l'angoisse tous les soirs, de où je vais dormir, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais être en sécurité, est-ce qu'on va m'agresser, voilà. Et que pour un enfant, c'est absolument terrible. Donc souvent, on le repère parce qu'il s'endort sur sa table, il n'est pas concentré, il travaillait pas si mal que ça, puis là, ça s'effondre tout d'un coup. Enfin, plein de petits signes qui alertent. Après, il y a une histoire de créer de la confiance avec les parents, mais ce n'est pas toujours simple pour les parents de dire « nous, on est au 115 et on n'a pas de solution ce soir, on ne sait pas où on va dormir ». Il y a aussi des enfants qui dorment dans la voiture avec les parents souvent ou qui squattent ou qui sont hébergés chez des amis. Alors l'hébergement chez de la famille ou chez des amis, ça dure un certain temps. Puis des fois, il peut y avoir un conflit et puis ça s'arrête et on se retrouve sans solution. Donc pour les enseignants, essayez de faire attention à tous ces petits signes-là. Il y a quand même de plus en plus de familles qui le disent quand on inscrit les enfants à l'école, qui disent moi, c'est un peu compliqué en ce moment, je suis au 115. Après, pour joindre le collectif, on a une page Facebook qui est très, très active grâce à un membre qui s'appelle Nicolas, qu'on remercie au passage, Et donc sur Facebook, il y a une page collective Pas d'enfants à la rue. Vous nous trouverez facilement. Vous pouvez nous laisser un message. On répond normalement relativement rapidement, le plus rapidement possible en tout cas. Et sur cette page, on met que dès qu'il y a des actions qui sont prévues ou dès qu'on a des réunions qui sont prévues, on informe. Donc, il ne faut pas hésiter à venir à notre rencontre. On est des gentils. Et on a besoin d'un maximum de monde. On a besoin d'être aidés. Quand il y a des mobilisations, des actions, d'avoir le plus de monde possible avec nous pour faire poids et pour avoir un impact et pouvoir aider nos élèves et leurs familles.
Quand on est enseignant, on peut vite être tenté justement de s'impliquer socialement. Enfin, vous le dites, c'est difficile de rester sans rien faire. Comment trouver un équilibre entre ce rôle d'enseignant et cette implication sociale ?
L'équilibre, il est compliqué à trouver parce que... je vais parler de moi, là, du coup. J'ai été confrontée l'année dernière. J'ai un de mes élèves, avant d'être inscrit dans ma classe, avec sa maman et ses deux frères, ils ont passé 10 jours à la gare de Tours. Et ça, ils nous l'ont expliqué le jour où on les a inscrits dans notre école. Et pendant, ils sont restés 3 mois dans notre école. Et sur les 3 mois, il y a eu 2 mois et demi où c'est nous qui avons trouvé des solutions pour qu'ils soient hébergés chez des parents d'élèves, chez des amis d'enseignants de l'école qui se mobilisaient tant bien que mal. Et puis certains soirs, des nuits d'hôtel quand on n'a trouvé personne. Et en tant qu'enseignante, c'est drôlement difficile de regarder son élève droit dans les yeux et de se dire « bon, toi, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, je sais que pour une semaine, tu es tranquille, ça va aller. Mais la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Je ne sais pas si on aura assez de gens prêts à vous héberger. » Et puis héberger 4 personnes d'un coup, ce n'est pas forcément simple non plus. C'est une grosse implication. Donc, c'est compliqué. Les enseignants du collectif, ils sont très fatigués, ils sont assez dépités. Très en colère, toujours aussi mobilisé, toujours prêt à y aller, mais on s'épuise à force et ça nous inquiète un peu. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de gens pour nous aider, pour nous relayer, pour faire avancer les choses le mieux possible.
Merci à vous pour cette présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur. On va faire une petite pause musicale sur le 99.5 FM, Radio Campus Tours. Que va-t-on écouter, Marie ?
On écoute Tanié, un morceau de Balaké Sissoko, Émile Parisien, Vincent Perani et Vincent Sénégal.
d'écouter Tanié de Balaké Sissoko, Émile Parisien, Vincent Perrani et Vincent Sénégal sur Radio Campus Tours. Alors je rappelle que Perrine Hernandez est enseignante et membre du collectif Pas d'enfants à la rue. Le mercredi 6 novembre, on s'est rendu au CTRO, le Centre Technique Régional Omnisport, un bâtiment du Tour FC, Tour Football Club, pour le point presse organisé par la métropole et par la ville de Tours pour l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence destiné aux femmes avec enfants, avec une capacité d'accueil de 60 personnes. Le collectif Pas d'enfants à la rue était présent et cette visite au centre, elle s'est faite aussi en présence, entre autres, du maire de Tours, Emmanuel Denis, de Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture, et de Guillemette Rabin, directrice régionale à l'emploi, travail et solidarité, à qui on a pu poser quelques questions. On vous propose de les entendre.
Comme on l'a fait l'année dernière, on a mobilisé cette année en plus les efforts de la métropole pour pouvoir réouvrir ce CTRO. Alors ça appartient à la ville de Tours, mais c'est aujourd'hui le TFC qui gère ces locaux. Et ça permet donc, avec bien sûr l'État dont c'est la compétence, de pouvoir proposer 60 places supplémentaires pendant tout l'hiver, pendant le plan hiver qui a débuté il y a quelques jours.
Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir systématique maintenant tous les hivers? On va avoir une ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence ici au CTRO?
Écoutez, je n'en sais rien. Je voudrais espérer que non. Malheureusement, vous suivez comme nous, les chiffres de la pauvreté grandissant et les difficultés grandissant. Et je pense que la promesse d'Emmanuel Macron de ne plus d'enfants à la rue, malheureusement, les moyens aujourd'hui sont dévolus par l'État ne sont pas suffisants. On est dans des situations inadmissibles avec ces enfants qui sont ici. On travaille en bonne intelligence et on essaie de mobiliser les moyens de toutes les collectivités et de l'État sur ces sujets-là.
Malheureusement, ça semble encore insuffisant si on en croit les personnes du collectif Pas d'enfants à la rue. Il y a encore aujourd'hui 5 familles, dont 16 enfants, c'est les chiffres qu'ils rapportent, qui dorment à la rue à Tours. Qu'est-ce qu'on peut faire à peine inauguré? Le dispositif est déjà saturé.
Oui, on pensait qu'on réussirait à résoudre le problème.
Tous les enfants à l'abri, malheureusement, on a eu à faire face, enfin le 115 a eu à faire face à un afflux de familles hier. Et finalement, alors que l'on pensait pouvoir mettre tout le monde à l'abri, et on parle de plus de 800 personnes qui sont sans abri sur la ville de Tours, puisque les financements de l'État permettent de financer 800 abris, ne sont pas suffisants. Et avec les 60 places supplémentaires qu'on a ouvertes, malgré cela, on s'est retrouvé avec encore plusieurs familles sans solution. Non, parce qu'on travaille, comme je le dis, en bonne intelligence. Bon, chacun est dans sa position, chacun avec ses compétences. On sait que c'est une compétence de l'État. La métropole, qui jusque-là n'était pas intervenue sur ce sujet-là, a eu une bonne écoute. J'en ai parlé à mes collègues maires et ils ont accepté de faire cet effort pour nous aider à ouvrir ce CTRO et pour permettre donc à 60 personnes supplémentaires de trouver un abri pendant les 5 mois à venir. Malheureusement, Tours, Ville-Centre concentre aussi la plupart des personnes sans hébergement. Donc c'est un sujet sur lequel nous, on est confrontés en permanence. On a ouvert de manière temporaire un gymnase pour mettre à l'abri, même si les conditions étaient peut-être un peu dégradées. Mais au moins, les personnes avaient un abri. Mais c'était que pour quelques jours. Et donc à partir d'aujourd'hui, donc depuis hier, on peut bénéficier des infrastructures du CTRO pour avoir ces 60 places supplémentaires tout l'hiver.
Bonjour, je suis Xavier Luquet, je suis le secrétaire général de la préfecture.
Quelles sont les situations qui ont évolué?
Tous les hivers, nous essayons d'augmenter la capacité d'accueil de l'hébergement d'urgence qui est proposé par le service d'orientation, le 115. Et donc cette année, la particularité, c'est que dans ce lieu-là, donc le CTRO, qui est un centre sportif, nous allons pouvoir augmenter cette capacité de 60 places, mais cette année avec l'aide des collectivités, puisque la ville et la métropole participent du financement en payant le loyer du CTRO. Ce qui nous permet du coup, par rapport à l'année dernière, d'augmenter le volume global de l'offre d'hébergement d'urgence Et donc, l'année dernière, nous avions pu financer cette offre sur 2 mois. Et là, grâce à cette aide, et parce que nous avons une mobilisation générale aussi de l'opérateur, entrée des solidarités, on va pouvoir financer cet hébergement pendant 5 mois, c'est-à-dire toute la période.
L'offre a donc augmenté. Est-ce que l'idée était de réduire avant, puis ensuite augmenter ?
Non, nous avons des places qui sont ouvertes toute l'année, à hauteur de 650, 700. Et nous avons la mission en hiver d'augmenter les places avec des crédits spécifiques que nous donne spécialement pour le plan hiver, de telle façon à ce que dans cette période où on considère que la fragilité des gens à la rue est plus importante, on augmente l'offre. Et donc la question qui était posée est un peu technique, c'est qu'on nous donne cet argent pour l'année civile, c'est-à-dire qu'il y a un bout de l'hiver 23-24 et un bout de l'hiver 24-25. Voilà. Et donc, on ne doit pas dépenser tout l'argent sur la première partie de l'année, parce qu'il y a un bout d'hiver en début d'année, il y a un bout d'hiver en fin d'année. Voilà. Donc, effectivement, l'ensemble des crédits du plan hiver ont été répartis en deux, sur la première partie de l'année, janvier, février, jusqu'à début mars, et la deuxième partie de l'année sur novembre, décembre. Voilà, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est l'augmentation du nombre de places à une période où les gens sont par construction plus fragiles. Toute personne qui dort à la rue est dans une situation précaire et très difficile et insoutenable pour l'individu. Mais en hiver, c'est pire. Et singulièrement, les personnes les plus fragiles, que ce soit en termes de santé, les enfants, les gens qui ont des différentes pathologies ou qui sont tout simplement sous-nutris, ont plus de chances d'avoir des problèmes de santé, ont plus de chances de risquer quelque chose de grave en plein hiver que le reste de l'année. On constate depuis, on va dire depuis 3 ou 4 ans en Indre-et-Loire, c'est un phénomène qu'on connaît dans d'autres départements, mais pas partout, qu'on a beau augmenter le nombre de places régulièrement, on a toujours à peu près le même nombre de personnes qui appellent et à qui on n'a pas satisfait. C'est-à-dire qu'en fait, l'augmentation des places suit ou est précédée par l'augmentation du nombre de gens qui sollicitent. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est le cas particulièrement ici. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a presque triplé le nombre de places en 10 ans, on a multiplié par 5 le budget. Pour autant, on a toujours plusieurs dizaines de personnes régulièrement à qui on ne peut pas proposer une solution.
Et pour quantifier ces demandes, ça représente à peu près combien de familles ou combien d'individus ?
Alors, ça dépend chaque jour, parce que c'est par jour. Mais en gros, nous avons entre au mieux une douzaine, une quinzaine de personnes à qui on ne peut pas proposer un hébergement, et ça monte jusqu'à 90 dans les situations les pires.
Comment sont sélectionnées les personnes ?
Il y a un opérateur qui est candidat et qui obtient cette mission, qui est financée par l'État. Cet opérateur, c'est un centre de solidarité. On définit un principe général qui est dans les textes réglementaires, c'est-à-dire la fragilité des gens. Et ensuite, c'est l'opérateur qui, informé un soir, le même soir, de toutes les demandes, choisit et priorise. Avec un peu de chance, on prend tout le monde. Et si on n'a pas assez de place par rapport au nombre de gens qui demandent, qui va faire des priorités sur les personnes qui comprend, les personnes qu'on ne comprend pas. Et c'est un travail extrêmement difficile. Ce sont des professionnels qui font ça. Voilà, c'est très compliqué de faire ce genre de choses. Et nous, on leur fait confiance. L'opérateur en très clarité est vraiment un opérateur de très grande qualité. Et donc, on part du principe qu'il faut que ce soit ces professionnels-là qui, le jour où il faut choisir, choisissent.
Ce centre, il est davantage dédié aux femmes et aux enfants, donc plutôt aux familles. Est-ce qu'il existe d'autres hébergements pour un public plus diversifié ?
Alors, c'est toujours pareil. Toute personne qui dort à la rue est en situation difficile, en situation précaire. On se retrouve dans une situation où finalement on a un nombre significatif de mères de famille et d'enfants qui se retrouvent dans cette situation. Donc l'objectif est de prioriser ce public-là. Et ça correspond à la politique de la ville, puisque la commune, avec le soutien de la métropole, a constaté qu'il y avait des gens scolarisés dans les écoles de la ville et qui, le soir, après les cours, finalement, n'avaient pas nulle part où aller. Et donc, c'était un des éléments qui leur a fait choisir de vouloir nous aider. Donc, effectivement, ça va faire partie des critères de priorisation, mais ça fait partie des critères de priorisation. On pourra se retrouver certains jours à ce que des gens en très, très grande difficulté auront une place et que peut-être, malheureusement, une mère de famille avec un enfant ne l'aura pas. C'est très insatisfaisant, mais c'est le travail du SIAO et on leur fait pleinement confiance. Malheureusement, dans certains cas, la priorisation pourrait être comme ça. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres places, puisqu'on a en gros 650 places
tous les jours. Voilà. Donc là, on augmente de 60. Et donc, et même, on a pu, dans certains cas d'urgence, avec des crédits supplémentaires, je pense notamment au plan grand froid, c'est-à-dire que quand il fait très froid, on nous débloque des crédits et on augmente les capacités. Là, c'est plus de la mise à l'abri que de l'hébergement. Hein, c'est plutôt gymnase, lit de camp. Et donc, on peut monter jusqu'à 1 000 de personnes à qui on offre de ne pas dormir dehors et d'avoir un toit sur la tête.
Ce centre est situé donc en plein milieu d'un complexe sportif et près d'établissements scolaires donc, comme le lycée Henri Becquerel et le collège Pierre Corneille. Est-ce que cet emplacement il a été choisi pour favoriser l'insertion?
Alors, il faut être très pragmatique. En ce qui concerne l'hébergement d'urgence, l'hébergement tout court et l'augmentation des capacités, on fait des choix empiriques. Le sujet, c'est qu'il y a évidemment une question de coût, mais il y a une question matérielle. Il faut des structures adaptées. Il faut des structures qui ont des lieux d'hébergement, peuvent accueillir des collectifs, le cas échéant, comme ici, peuvent accueillir des espaces de convivialité ou de nourriture. Et donc, c'est ça le premier critère. C'est est-ce qu'on a un endroit où on va pouvoir mettre plusieurs dizaines de personnes dans des conditions les plus décentes possibles. Et c'est ce critère qui a fait choisir ce centre, parce que c'est un centre qui est très adapté en termes d'hébergement et qu'ils ont des capacités relativement importantes, puisque là, on va pouvoir mobiliser 60 places. C'est le premier choix. Voilà. Après, effectivement, tout ce qui peut contribuer à l'insertion est bienvenu. Mais vous voyez, d'un autre côté, on n'est pas totalement en centre-ville, donc les gens qui, dans la journée, vont avoir à faire quelque chose vont être un peu plus isolés. D'où la nécessité de ce que nous faisons ici, c'est-à-dire leur fournir un certain nombre de repas, le repas du matin, le repas du soir, et puis pour les enfants, le repas du déjeuner, parce que, voilà, quand vous êtes ici, c'est pas très très facile d'aller se substanter juste à côté. Donc vous voyez, ça a un intérêt, ça a un inconvénient, mais nous, notre première priorité, c'est quelle structure est physiquement capable d'accueillir, quel opérateur en très d'isolarité est capable de nous mettre les gens, parce qu'ils sont accompagnés, parce que les gens seront accompagnés. Il y a à la fois il y a un gardien le soir, mais il y a aussi des éducateurs, des professionnels. Les gens sont encadrés, on ne les envoie pas comme ça. Et donc, c'est ça notre première priorité.
Comment vous procurez-vous les ressources nécessaires, l'équipement nécessaire, lits, repas et autres fournitures?
L'intérêt de cette structure-là, c'est qu'il y a donc des structures d'hébergement. Donc, le matériel est déjà là. L'intérêt, c'est ça, c'est que vous avez des chambrées, vous avez des lits, vous avez des salles d'eau. Le repas, tout simplement, c'est que nous allons passer une prestation avec toujours entrée des solidarités sur tout le reste, c'est-à-dire l'accompagnement, l'encadrement, la présence des éducateurs, le gardiennage et la fourniture de repas, puisqu'on a un opérateur qui fournit des repas dans d'autres cadres. Et donc, on va lui payer une prestation globale. Et on est très satisfait, on a la chance d'avoir un opérateur très, très efficace. Il se trouve que c'est aussi celui qui fait le service d'orientation du 115, mais qui a en régie une capacité à fournir des repas, qui fait qu'au lieu d'aller demander à quelqu'un pour des repas, d'aller demander à quelqu'un pour du gardiennage, d'aller demander à quelqu'un pour des éducateurs, on a la chance d'avoir un opérateur qui a pu nous proposer une solution globale et qui, étant très engagé dans le territoire, a pu nous proposer une solution qui correspondait à nos capacités financières et qui a fait un effort cette année significatif pour pouvoir, comme tous les autres acteurs de cette opération, augmenter les capacités sur plus longtemps. D'accord. Donc, malheureusement, ils font partie des gens qui n'ont pas été décidés comme étant prioritaires.
Sur les places qu'on met à disposition des personnes qui appellent le 115, on a effectivement des structures qui sont dédiées aussi à des hommes seuls. Hein, il n'y a pas que des dispositifs pour les femmes, les familles avec les enfants. On a aussi un certain nombre de places qui sont dédiées, puisque évidemment aussi, il y a des hommes seuls, des hommes avec des handicaps.
Non, je ne dis pas, je ne fais rien. On est en train de vous expliquer depuis une heure qu'on fait plein de choses. Mais voilà, et comme je vous l'ai dit.
Comment et pourquoi la gestion a-t-elle été confiée à l'association Entraide et Solidarité ?
Entraide et Solidarité est l'association avec laquelle on travaille en règle générale sur la question de la période hivernale. Après, c'est un gros opérateur, parce qu'ils ont beaucoup de dispositifs, ils font beaucoup d'interventions dans le champ social.
mentale, de l'hébergement, de l'accompagnement à l'autonomie. Et donc, ils ont une vraie connaissance, plus-value, compétence dans le champ de l'hébergement, l'hébergement d'urgence, et notamment sur le sujet de l'armement de sites comme ici, où ils accompagnent particulièrement les personnes, avec aussi la mise à disposition du matériel, notamment l'alimentation, puisque c'est l'entrée de solidarité qui permet donc aux personnes d'accéder à ces repas.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Tanguy. J'ai été bénévole pendant 3 semaines au gymnase du Péri où étaient logées les familles sans abri pendant 3 semaines, avec une rotation tous les mardis par le 115. Donc j'ai accueilli environ, je pense, une vingtaine de familles sur 3 semaines.
Quelles sont vos impressions aujourd'hui de ce point presse pour l'ouverture de ce centre ?
Alors, je suis très contente de l'ouverture de ce centre. La mairie a été un précieux allié pendant ces semaines. C'est eux qui ont ouvert le gymnase et c'est eux qui accompagnent le collectif depuis des mois pour trouver des solutions. Pour moi, par contre, ce n'est pas suffisant et l'État et la préfecture ont un rôle à jouer là-dedans. Il faut qu'ils prennent leur responsabilité parce qu'il nous reste aujourd'hui, ce soir, 3 familles qui n'ont pas de solution d'hébergement.
Donc c'était les mots d'Emmanuel Denis, Guillemette Rabin, Xavier Luquet et Nathalie Tanguy, bénévole du collectif. Et c'est aussi un journaliste de France 3 qu'on entend poser des questions donc au début de l'enregistrement. Nous, c'était la première fois qu'on se déplaçait pour enregistrer du contenu, donc la qualité sonore laisse un peu à désirer, surtout au début. Donc on s'en excuse. Nathalie, qui a été bénévole dans un centre, dit que la mairie donc, a accompagné le collectif pour trouver des solutions et que c'est une alliée. Ils ont tout de suite été réactifs dans la recherche d'un centre d'hébergement ?
Ah bah la mairie, c'est eux qui ont débloqué la situation après l'occupation du dojo. Enfin, clairement, pour nous faire sortir du dojo aussi, puisque la municipalité n'aime pas quand on occupe un lieu municipal, surtout un centre sportif, qui fait qu'on est obligé d'annuler des activités, donc ce qui pose problème. Voilà, donc eux, ils ont été très, très réactifs. Ils ont ouvert le gymnase rapidement, avec les moyens qu'ils avaient. Et on sait que c'est très compliqué pour eux et que ça coûte très cher et que c'est toujours pas leur rôle. Nathalie, elle a été là sur le gymnase pendant toute l'ouverture, en fait. Et donc, elle a pu constater qu'on a eu un gardien de nuit, un veilleur de nuit tous les soirs pour la sécurité des familles, qu'il y a eu des barnums qui ont été installés. Ils sont arrivés un petit peu tard, mais bon, on a fini par les avoir. On a eu des lits de camp, des duvets, tout ce qu'il fallait pour que les familles n'aient pas trop froid, parce qu'il fait froid dans un gymnase et que chauffer un gymnase, c'est également très compliqué. vraiment, la mairie a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous aider et ça, là-dessus, on leur est vraiment reconnaissant.
Et on l'entend avec les mots de Xavier Luquet, donc secrétaire général à la préfecture. Il y a une sélection qui doit s'opérer quand la capacité d'accueil dépasse les demandes. Enfin, quand la demande dépasse la capacité d'accueil, c'est mieux dans ce sens-là. Elle est réalisée donc par l'organisme Entraide et Solidarité, qui est financé par l'État. Quels sont les critères de vulnérabilité ?
Alors, lors de cette conférence de presse, il nous a expliqué que c'était d'abord les enfants en très bas âge, les personnes qui avaient des problèmes de santé ou les personnes handicapées qui étaient prioritaires au 115. C'est en partie vrai, mais pas complètement. Le gymnase a fermé, le gymnase devait fermer le 5 novembre cette année. Et le 5 novembre au soir, on s'est retrouvés avec une vingtaine de personnes sans solution parmi les familles qui avaient passé plusieurs semaines au gymnase. Donc, on a décidé de rester dans le gymnase au moins une nuit de plus pour voir ce qu'on pouvait faire, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer l'hôtel pour toutes ces personnes. Et parmi les personnes qui étaient avec nous au gymnase, il y avait une petite fille de 4 ans et il y avait une maman qui a des gros problèmes médicaux, des gros problèmes au cervical, et qui normalement devrait être prioritaire. Cette maman avec ses enfants et cette autre famille avec une petite fille de 4 ans qui, si on n'avait pas maintenu l'ouverture du gymnase un peu de force, se seraient retrouvées à la rue, alors que, d'après les dires de M. Luquet, elles auraient dû être prioritaires pour être hébergées.
Vous parliez de chambres d'hôtel. Est-ce que vous avez été en partenariat avec certains hôtels à Tours ?
Non, nous, on n'a pas de partenariat particulier, donc on paye plein pot à chaque fois, ce qui coûte très, très cher.
Vos actions datent de 18 mois maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour avoir du recul et aussi après avoir des perspectives, des projections. Mais est-ce que sur ce quartier, vous avez votre école, sur cette école, sur un temps un peu plus long que les 18 mois qui viennent de passer, vous constatez une dégradation de cette situation, le fait que, alors là on est à Tours, mais est-ce que ailleurs en région et ailleurs en France, il y a cette problématique qui tend à augmenter d'enfants scolarisés qui n'ont pas de solution d'hébergement?
Alors, moi, je ne suis pas dans une école du Sanitas. Moi, je suis dans une école du centre-ville. A priori, dans les écoles du Sanitas, ils n'ont pas constaté d'augmentation drastique. Nous, dans le centre-ville, par contre, on constate qu'on a de plus en plus, dans mon école en tout cas, d'enfants qui arrivent et qui sont au 115. En particulier parce qu'il y a des classes pour les élèves allophones qui sont ouvertes dans différentes écoles et que du coup, forcément, qui dit élève allophone dit enfant qui ne parle pas français, donc qui viennent de pays étrangers et qui viennent d'arriver en France. Donc voilà. Donc je ne crois pas qu'il y ait particulièrement d'augmentation dans les écoles du Sanitas. Il y a un peu plus de familles dans d'autres écoles qui étaient moins touchées jusque-là et qui se retrouvent plus confrontés aux problèmes et qui, du coup, sont un peu plus perdus parce qu'on n'a pas l'habitude dans les écoles du centre-ville de ce type de situation. Après, je pense pas que certains appellent un appel d'air. Voilà, il y a des gens qui y arrivent, oui. Il y a d'autres gens qui partent aussi. Et je pense qu'il y a un équilibre qui se fait quand même malgré tout. Et que voilà, qu'on a vraiment un problème de nombre de places d'hébergement d'urgence dans la ville de Tours et dans l'agglomération tourangelle en tout cas.
Et avec les associations ou du moins avec les parents d'élèves des écoles, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi mobilisation et solidarité des associations de parents d'élèves qui peuvent exister ou des parents d'élèves en général ou pas?
Oui, il y a quand même. Alors moi, dans mon école, on a un groupe de parents d'élèves qui ont pris le problème à bras-le-corps, qui nous ont aidés à trouver des solutions l'année dernière. On a beaucoup de parents d'élèves qui font partie du collectif Pas d'enfants à la rue, donc de différentes écoles. On a beaucoup d'enseignants de maternelle, élémentaire, collège, lycée aussi, qui rejoignent le collectif. Et oui, les parents se sentent concernés parce que c'est les copains de leur gamin et que c'est compliqué d'avoir un copain qui explique qu'il ne sait pas où il va dormir ce soir, qu'il n'a pas de maison. C'est extrêmement difficile pour un enfant d'entendre ça et de le comprendre. Ça leur paraît absolument impossible. Enfin, on ne peut pas être un enfant et être dans la rue, ce n'est pas possible. Déjà pas dans la tête d'un enfant et encore moins dans un pays qui a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est... Une des lois fondamentales, c'est qu'on ne laisse pas un enfant dans la rue.
Donc on parle un peu de politique. Que pensez-vous des politiques publiques actuelles concernant les enfants en situation, situation de rue? Et que pourrait-on changer, selon vous? Ou améliorer, surtout?
Améliorer, mettre les moyens financiers dont il y aurait vraiment besoin. Faire en sorte... L'un des problèmes, c'est l'engorgement du 115. Donc, entre autres, parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux et qu'il y a à peu près un quart des personnes qui sont au 115 qui devraient avoir un logement social. Et comme il n'y a pas assez de logements sociaux, du coup, ça coince. Et donc, il y a des gens qui sont au 115, mais qui, normalement, ne devraient pas y être et qui prennent des places pour des gens qui, eux, devraient y être, mais qui ne peuvent pas y être puisqu'il n'y a plus de place. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc tant qu'on ne mettra pas les moyens financiers pour créer des logements sociaux et accélérer le processus des logements sociaux, on sera coincé. Voilà, j'ai pas de solution miracle malheureusement. Pas de baguette magique non plus, mais il y a un moment où il faut quand même vraiment prendre conscience que nous, ça fait 18 mois qu'on se bat. En 18 mois, il n'y a rien qu'à changer. Il y a toujours 27% de mémoire de gens qui sont au 115 et qui ne devraient pas y être parce qu'ils ont droit à un logement social. Donc en un an et demi, on aurait pu créer beaucoup plus de logements sociaux et en partie débloquer le problème en tout cas.
Vous en parliez un petit peu tout à l'heure dans votre collaboration avec la mairie. Est-ce que vous travaillez avec Entraide et Solidarité?
Alors on ne travaille pas directement avec Entraide et Solidarité. Moi je suis aussi bénévole dans une autre association qui s'appelle la Table de Jeanne-Marie, qui fournit des repas au petit déjeuner et le déjeuner aux gens en grande précarité, donc beaucoup aux familles entre autres de nos élèves. Et voilà, donc avec cette association, ils nous ont aidés pour toutes nos actions quand on a eu besoin de nourrir toutes ces personnes un peu en urgence, ils ont toujours été là eux aussi. Et il y a un certain nombre d'associations de Tours qui aident les gens en grande précarité qui se sont regroupées sous le nom de l'ASFT. Et Entraide et Solidarité fait partie de la SFT. Donc, il nous arrive de nous rencontrer dans le cadre de réunions de toutes ces associations. Mais après, on n'a pas de lien direct. On n'est pas vraiment en lien directement. Ça nous arrive d'appeler le 115 pour aider les familles, mais on ne les côtoie pas directement.
Cette année, dans le même centre, donc au CTRO, il y a 60 places qui ont été débloquées au lieu de 80 comme l'année dernière. Mais pour une durée qui a été annoncée plus longue, donc 5 mois au lieu de 2, est-ce que vous comprenez ce choix ?
Alors, on peut comprendre ce choix. On peut comprendre le CTRO, c'est un lieu privé. Donc, on peut comprendre que la personne qui gère le CTRO veuille garder des places pour les stagiaires et les jeunes, enfin les personnes en formation. Après, on peut comprendre sans l'accepter, puisque 80 places au lieu de 60, bah, ça fait 20 places de plus. Ça fait un certain nombre de familles qui pourraient être mises à l'abri et qui ne le sont pas. Et que si on a les moyens de faire des stages de foot, peut-être qu'on a les moyens de se faire héberger par les copains de stages de foot ou de payer l'hôtel ou de trouver une solution pour se faire héberger et permettre à des gens qui n'ont vraiment pas d'autre solution de venir. Donc 60 places, c'est déjà ça, mais clairement, ce n'est pas assez. Et on aimerait qu'ils ouvrent les 20 dernières places. Je ne sais pas s'il y a des stagiaires en ce moment. Peut-être qu'il y a des jeunes en formation. Je n'ai pas l'information. Mais voilà, mais ces places, on en a vraiment besoin pour des gens qui n'ont pas les moyens de se loger ailleurs.
Est-ce qu'il y a pu avoir justement un échange avec le directeur du centre ?
Non, on n'a pas réussi à parler avec lui lors de la conférence de presse.
On imagine que c'est une difficulté récurrente, déjà malgré les centres d'hébergement en hiver. Il n'y a toujours pas, ou du moins pas toujours, de réponse adaptée aux besoins de ces familles, ni même au printemps. Lorsque s'achève la trêve hivernale, comment est-ce qu'on fait pour gérer un afflux important de personnes ?
Lorsque s'achève la trêve hivernale, on a la boule au ventre en se disant « bon, c'est reparti pour un tour, là on a soufflé un petit peu, puis en fait on va se retrouver avec plein de gens pour qui il n'y aura pas de solution ». Sachant que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Luquet qui dit qu'ils ouvrent les places l'hiver parce que c'est plus dangereux l'hiver, que c'est plus compliqué pour les familles, pour les gens qui sont à la rue. A priori, il semble que le taux de mortalité soit beaucoup plus important au mois d'août pour les personnes qui sont à la rue, en partie à cause des canicules, de la chaleur, de la déshydratation, de tous ces problèmes-là. Donc oui, il y a des choses dangereuses l'hiver, mais il y en a tout autant l'été. Donc en fait, dans un pays comme la France, on ne devrait jamais être à la rue. On devrait pouvoir faire en sorte que personne ne soit à la rue. On sait qu'il y a plein de bâtiments vides à Tours ou aux environs, et dans plein d'autres villes aussi. Donc il y aurait moyen de mettre ces gens à l'abri, au moins pour la nuit, mais d'ouvrir des portes pour qu'ils puissent dormir dans des lieux... on ne demande pas le grand luxe, mais au moins qu'ils puissent dormir à l'abri et pas dans la rue, quoi.
Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les actions du collectif ?
Eh bien, allez sur la page Facebook pour voir toutes les actions qui sont lancées régulièrement. Participer quand on relance un appel pour la cagnotte pour nous aider un petit peu financièrement pour qu'on puisse payer un peu plus de nuits d'hôtel. Et puis, demander des rendez-vous avec la préfecture pour leur dire que c'est leur travail, en fait. Que nous, au départ, on est des enseignants. Notre travail, c'est pas de veiller à ce que nos élèves soient à l'abri. Donc chacun son travail et on aimerait bien que monsieur le préfet se lance, vu qu'on a un nouveau préfet, qu'il commence par nous aider et en ouvrant les places dont on a vraiment besoin.
Et du coup, lorsque ces familles sont placées en centre d'hébergement, de quels produits du quotidien ils ont le plus besoin ?
Quand ils sont en centre d'hébergement, ils ont toujours besoin de produits d'hygiène, de choses comme ça. Après, là, c'est pas le collectif qui va récolter des dons. Je préfère préciser tout de suite. Il faut plus voir avec la Croix-Rouge, avec le Secours Populaire, avec Entraide et Solidarité directement, parce qu'ils seront plus à même de dire de quoi les familles vont avoir exactement besoin. Je suis un petit peu embêtée pour répondre, en fait, parce que je ne sais pas exactement ce qui leur est donné sur place. En général, ils nous demandent des produits d'hygiène. C'est plus ça qui peut peut-être les intéresser.
Oui, c'est davantage Entraide et Solidarité qui gère ce volet-là. Oui. Ouais. Et est-ce que vous en parliez tout à l'heure avec le cas d'une famille qui a dormi dans la gare. Est-ce que vous avez des retours d'enfants ou de familles ayant bénéficié des actions du collectif ? Et est-ce que vous auriez une histoire particulièrement marquante ?
Alors, on a, avec l'ouverture du gymnase au mois d'avril, Donc il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient mises à l'abri dans ce gymnase et on nous avait demandé à ce que ce soit toujours les mêmes personnes, qu'on ne fasse pas rentrer d'autres personnes quand ils arrivaient à trouver une solution d'hébergement pérenne pour les personnes concernées. Et nous, ce qui nous touche, c'est de voir que des familles qui ont été dans ce gymnase, pour qui on a pu débloquer la situation, qu'on puisse avoir des papiers, qu'on puisse avoir un logement, voilà, et qui reviennent à chacune de nos mobilisations pour encourager, entre guillemets, les copains et dire, bah, nous, c'est bon, on s'en est sortis, mais on est là pour vous aussi et on ne vous lâche pas. Quoi. On est, voilà, y a une solidarité qui se crée entre les gens qui est vraiment chouette et qui fait du bien parce que... Voilà, on se bat tous ensemble et on reste ensemble, même quand la situation s'améliore pour certains, ils sont toujours là, quoi.
Et du coup, que souhaitez-vous que les personnes qui découvrent le collectif Pas d'enfants à la rue retiennent de votre message ?
Que des gens qui ont quitté leur pays pour venir ne le font pas de gaieté de cœur, qu'ils ont déjà traversé des choses épouvantables. Que ce n'est pas ce qu'on appelle un voyage, c'est juste monstrueux ce qu'ils vivent pour arriver jusqu'à un pays un petit peu plus stable. Que ce sont, enfin moi, dans ce qui me concerne en tant que membre du collectif, ce sont des enfants. Et que un enfant d'un pays étranger, c'est le même qu'un enfant français, qu'il a les mêmes droits et qu'on n'a pas le droit de leur enlever ce droit et qu'il faut absolument qu'on fasse en sorte que les enfants puissent avoir les droits auxquels, les droits qu'ils méritent et les droits. Pour lesquels on a signé cette convention et qu'elle se soit enfin respectée pour de bon.
Et donc les objectifs à long terme, ça serait que le collectif soit dissous et que l'État investisse davantage dans les
hébergements. C'est ça. On aimerait que le collectif soit dissous et que l'État puisse jouer son rôle complètement.
Merci beaucoup, Perrine Hernandez, du collectif Pas d'enfants à la rue, d'avoir été avec nous. Donc le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On va se laisser sur une touche de musique avec Les Mariannes, avec la version de Ensemble 7 du Chapelier Fou. Et nous vous souhaitons donc une...
Alors attention.
Qu'est-ce qu'il y a, Samuel ?
Comment est-ce qu'on peut vous retrouver du coup le collectif ? Vous parlez d'un Facebook ?
Oui, et on a une page Facebook, sur Facebook, donc la page collectif Pas d'enfants à la rue. Vous retrouverez, il y a notre petit logo avec la main d'un enfant. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur cette page et il y a toutes les informations pour nous contacter.
Vous avez aussi un Hello Asso, si je ne me trompe pas.
On a un Hello Asso. Alors, je ne connais pas le lien par cœur parce qu'il est un peu long. Il est sur la page Facebook. Donc, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook. Et c'est là où c'est une cagnotte en ligne. Donc, c'est la cagnotte qu'on utilise pour payer des nuits d'hôtel quand on en a vraiment besoin.
Me revoici. On se laisse donc sur une touche de musique avec Les Mariannes de l'ensemble 7 version de Chapelier Fou.
Merci.